votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, dans le cadre du Festival du film français de l'Alliance française, on a le plaisir d'avoir Philippe Mangeau dans les studios. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous présenter un film qui est tout simplement superbe. BPM en anglais, 120 battements par minute en français. Parlez-nous de vous et de votre passé, parce que vous aviez eu un gros passé très actif au sein de d'ACT UP.
Un gros passé, je ne sais pas, mais un passé,
un passé, si, mais très actif en tout cas au sein de d'ACT UP.
Oui, au sein d'ACT UP Paris. Vous savez, il y a eu des ACT UP partout. Il y en a eu en Australie aussi. Mm-hmm. J'étais il y a quelques jours à Sydney, à Carriage Works, et j'ai rencontré des militants, d'anciens militants d'ACT UP Sydney. ACT UP Paris s'est créé en 89. Je l'ai rejoint en 90. J'y suis resté 13 ans.
D'accord.
Alors c'est évidemment un activisme bénévole. J'en ai été président pendant 2 ans, à la fin des années 90. Donc c'est une histoire que je connais très bien, évidemment. Je suis séropositif depuis 86, et donc j'ai rejoint ACT UP très vite après sa création.
Alors, ce film, 120 battements par minute, donc BPM, on va référer au titre en anglais. Parce que
oui,
ce
sera plus simple. Je préfère le titre anglais.
BPM, ce film, on sent bien que c'est un film dont vous avez coécrit, vous avez participé à l'écriture du scénario. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur.
C'est-à-dire que 3 personnes impliquées dans la conception du film, Romain Campillo en premier lieu, puisque c'est l'auteur du scénario avec moi, et c'est aussi le réalisateur, et c'est d'abord le réalisateur, mais aussi Hugues Charbonneau qui est son producteur. Et moi-même, nous nous sommes rencontrés à ACT UP il y a 27 ans, 26 ans. L'idée, c'était vraiment de revenir sur ce qui nous était arrivé. À un moment où on avait le sentiment que cette histoire faisait maintenant partie de l'histoire, que la majorité des gens ne la connaissaient pas. Je parle d'une histoire du sida où on mourrait du sida. Mmh. Je parle d'une histoire de jeunesse, puisque finalement, on avait 25 ans à l'époque, où on passait plus de temps dans les hôpitaux et dans les cimetières qu'à notre propre boulot. Donc voilà, il nous a semblé que 25 ans, c'était peut-être le temps qu'il faut pour le chagrin de trouver à s'exprimer, de trouver les modes d'expression. C'est pas uniquement un film sur le chagrin.
Non, absolument pas.
Vraiment, on en parlera peut-être, mais c'est un film sur l'action. C'est un film sur ce qu'il y a de vital dans le fait de rentrer dans le combat et dans un combat collectif. Mais oui, en effet, c'était important pour nous de revenir sur cette histoire au moment où elle s'effaçait. Je me suis rendu compte que mes étudiants, je suis prof de littérature par ailleurs, et que mes neveux, qui ont l'âge qu'on avait à l'époque, ne savaient rien de cette histoire.
Est-ce qu'aujourd'hui, la relation que les jeunes ont avec le sida vous pose problème? Parce qu'on entend beaucoup parler dans la presse que beaucoup de jeunes pensent qu'on guérit du sida. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui vivez avec la séropositivité, est-ce qu'aujourd'hui, et que vous avez été militant, comme vous l'expliquez, est-ce que ça vous gêne quelque part?
Non, je dirais pas que ça me gêne. De toute façon, c'est pas la réaction des jeunes qui peuvent poser problème, c'est l'absence d'information.
Absolument.
C'est toujours une question politique.
Ça, je voudrais juste en parler aussi vite fait, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai grandi, il y avait cette histoire du préservatif à 1 franc. C'était poussé. Aujourd'hui, on n'en parle plus.
Non, mais c'est parce que la donne a radicalement changé. Je vais donner un exemple. 86, on me dit que je vais mourir dans les 2 ans. Je suis encore vivant, j'ai eu la chance, j'ai vraiment eu la chance. Il y a 2 ans. Après avoir fait l'amour avec un préservatif pendant plus de 30 ans, j'ai abandonné le préservatif parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui est traité est encore porteur du virus mais n'est plus contaminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les modes de prévention ne sont pas seulement le préservatif. Le préservatif est un mode de prévention, mais il y a aussi ce qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire que si on choisit de ne pas mettre un préservatif, on peut choisir, et je viens d'apprendre d'ailleurs que ça sera remboursé d'ici 1 mois par les autorités australiennes, on peut choisir la PrEP, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un traitement qui est un traitement qui permet, alors qu'on est exposé au virus, ou si on est exposé au virus, de ne pas être contaminé. Quelqu'un qui est traité n'est pas contaminant. Autant dire que aujourd'hui, il est absolument possible, il reste le préservatif, il est absolument possible d'en finir avec le sida, d'en finir en tous les cas avec la contamination. Donc l'enjeu, c'est pas tant est-ce que les jeunes d'aujourd'hui savent ce qu'il en est du sida. L'enjeu, c'est quelle information on diffuse pour que les gens se fassent traiter volontairement, ce qui suppose qu'ils se fassent dépister volontairement, et d'autre part, quelle information on diffuse sur l'éventail des modes de prévention. Je crois savoir qu'en Australie, on est plus en avance qu'en France sur cette question-là.
Intéressant.
Oui, j'ai vu une très belle affiche à Sydney, très belle affiche qui disait très clairement que l'objectif, c'était pas aucune contamination à l'horizon 2020.
D'accord, moi j'ai appris quelque chose.
Voilà.
ce film, BPM, c'est. Alors, je voulais dire que c'est vrai que c'est un film qui est à la fois. Qui relate des années assez violentes, quand même, globalement.
Oui,
le combat
était violent. C'est une violence symbolique, mais c'était quand même une violence.
Mais voilà, pas une violence dans les actes, forcément, une violence.
On envoyait du faux sang sur la tête des méchants.
mais il y a aussi cette histoire d'amour dans le film qui est aussi important, qui justement. Rappel, fait un peu une piqûre de rappel sur le fait qu'il y avait toute cette violence, cette agressivité autour de ce qui se passait, mais au sein il y avait aussi l'amour, ce qui est aussi
super
important.
Même si, alors c'est vrai que le film est d'abord un film choral qui se passe massivement dans l'assemblée hebdomadaire d'ACT UP, et puis progressivement il se resserre sur le destin de deux, voire trois personnages, mais en particulier deux personnages, Sean et Nathan, qui sont amoureux. Après, on s'est vraiment posé des questions, c'est-à-dire, c'est une histoire d'amour, mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette histoire d'amour? Disons qu'il y en a un qui est séronégatif, l'autre qui est séropositif, et celui qui est séronégatif, finalement, c'est quelqu'un qui est engagé dans une histoire d'amour d'autant plus compliquée que c'est une histoire d'amour dont il sait qu'elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer parce que son amant va mourir. Et dans ce genre de cas, on se pose toujours la question de savoir si on aime l'autre parce qu'il va mourir. Et de la même façon, l'autre, celui qui va mourir, est amoureux parce qu'il sait que c'est la dernière histoire. Et donc, on a travaillé ça. On a travaillé ce qu'il y a de très singulier chez ces jeunes gens qu'on a été. Ça a été mon cas. Moi, j'ai été veuf très jeune. C'est chez ces jeunes gens qui sont confrontés à une histoire d'amour comme toute histoire d'amour, mais qui a ceci de singulier qu'il y a la mort au centre.
Il y a aussi une très belle, entre guillemets, image de camaraderie au sein d'ACT UP. On ressent ça très bien dans le film. C'était comme ça à l'époque?
Oui, c'était comme ça. C'est ce qu'on voulait donner à voir, et là je pense qu'il y a je parle presque en spectateur du film, parce qu'après tout c'est pas moi qui l'ai réalisé, ce qu'on voulait donner à voir, je crois que c'est réussi, ce qu'on voulait donner à voir c'est qu'on s'engueulait tout le temps à ACT UP. C'est un espace, comme tout espace politique, c'est un espace de conflictualité, et en même temps, on s'engueulait sur le fond d'une amitié, d'une fraternité et d'un amour inconditionné. Voilà. C'est donc ce qu'on voulait donner à voir, c'est précisément ça, une conflictualité aimante.
La réception de ce film en France a été très bien faite dans le public en général, dans le public cinéphile, on va dire.
Ouais.
Dans le public cinéphile encore plus. Au sein des gens qui étaient à ACT UP avec vous, qui étaient dans ce militantisme à l'époque, ça a été reçu comment ?
Bien. En fait, c'était une grande inquiétude et pour Robin et pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire une sorte d'autobiographie collective quand on est...
Est-ce que vous écrivez leur histoire en même temps que la vôtre ?
Histoire, on écrit une histoire commune. Et donc il y avait une vraie inquiétude pour ça. Un groupe militant aussi prenant qu'ACT UP, c'est un groupe qui peut créer des amertumes, des ressentiments où les gens s'en vont. Et on avait très peur, à deux exceptions près. L'ensemble des anciens militants d'ACT UP qui sont venus nous ont remerciés du film.
C'est bien.
Ouais.
Dans le film, vous parlez de la relation beaucoup avec une autre association qui s'appelait AID.
Ouais.
La relation à l'époque entre ACT UP et AID était beaucoup plus institutionnelle. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez travaillé main dans la main?
On n'a jamais cessé de travailler main dans la main. D'abord, on a créé des collectifs ensemble, et notamment des collectifs pour l'accès au traitement et pour la redéfinition de ce qu'on appelle les essais thérapeutiques. Après, c'était toujours un jeu, le rapport avec l'autre association. Vous savez, il faut toujours qu'il y ait un bon flic et un mauvais flic. Mmh. Et le travail avec AID, quand bien même c'était un travail, on se moquait volontiers de AID, et AID méprisait souvent ACT UP. Mais le travail avec AID, tout ça fait partie de la comédie humaine. Le travail avec AID, c'était très largement un travail qui consistait pour ACT UP à ouvrir des brèches et pour AID ensuite à s'y engouffrer. Et donc, Et donc il y avait ça. Je crois qu'on a essayé de montrer ça aussi. On a essayé de montrer à la fois le différent entre Aide et Act Up, mais la façon dont confronté par exemple à un laboratoire pharmaceutique qui propose de façon scandaleuse de tirer au sort les gens qui bénéficieront de traitements, la façon dont on travaille main dans la main et dont on refuse en un sens la stratégie du laboratoire qui consiste à parier sur la division entre les associations.
Et le rôle des politiques dans tout ça? Parce que ça a été très conflictuel quand même avec la...
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
J'essaie d'être politiquement correct à la limite, et c'est vrai que ça a été plutôt dans le conflit quand même avec les politiques.
Bah, de toute façon, Act Up s'est créé précisément parce que les politiques n'avaient pas fait leur boulot. Je vais donner un exemple très simple. Hein. Je suis contaminé en 86, on connaît les modes de contamination depuis 84, et la publicité pour le préservatif reste interdite en France jusqu'en 87. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 ans où sciemment, je parle même pas du scandale du sang contaminé qui est évidemment quelque chose qu'on aborde dans le film d'ailleurs.
Absolument, ouais. Avec l'hémophile.
Mais absolument, ouais. Mais pendant 3 ans, sciemment, on a décidé, au motif sans doute que les gens qui mouraient, la mort de certaines catégories de personnes, en l'espèce des gays, des usagers de drogue, des prostituées souvent, ne feraient pas de vagues, on a sciemment décidé de ne pas changer de politique de santé publique alors que se présentait l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité.
Et
donc,
il y a
une responsabilité.
Voilà, et on avait vu le développement dans d'autres pays. C'est pas comme si on avait les œillères.
Absolument. Absolument. Donc voilà, il faut continuer de leur demander des comptes. Mais en attendant, ce qui nous importait, c'était qu'enfin ils s'y mettent.
Ouais, j'allais justement y venir. Est-ce que pour vous, c'est important aujourd'hui de demander des comptes aux politiques qui, certains sont encore là, plus forcément en place parce qu'il y a eu cette vague de renouvellement politique en France, mais est-ce que c'est important justement de continuer à demander des comptes par rapport aux actions ou aux non-actions à l'époque ?
Je pense que là, il y a un travail d'historien à faire, ça c'est clair. Quand on est militant, on s'inquiète du présent bien plus que du passé. Donc le travail d'historien est à faire et en un sens... le travail qu'on a fait en faisant ce film, il a à voir avec ça. Non pas demander des comptes, mais rappeler ce qu'il en a été de cette histoire et rappeler que tout ce qui aurait pu être fait à certains moments n'a pas été fait. Libre à chacun et à chacun des spectateurs aujourd'hui de faire avec cette information ce qu'il souhaite faire.
D'accord. Le fait que le film ait été sélectionné dans pas mal de festivals, notamment le Festival des films français, mais a reçu beaucoup d'éloges et beaucoup de prix, et qu'au César, vous allez sûrement faire un carton.
Ouais, je serai pas là, mais...
le carton, il va sûrement être plein avec le nombre de nominations que vous avez. Est-ce que, quand même... Au fond de vous, il y a un sentiment du travail bien fait déjà sur ce film, mais aussi sur le fait d'avoir fait passer le message et rappeler, fait peut-être une piqûre de rappel sur ce message-là.
Oui, en tous les cas, le succès à la fois critique, le succès festivalier, mais aussi le succès public, en tous les cas en France, on verra comment ça se passe en Australie, mais a été quelque chose de très, très gai, très heureux pour nous. Ça c'est sûr, ça n'a pas été dénué d'une étrange amertume de ma part qui est que je pense que le film a reçu plus de presse que Act Up dans l'ensemble de son histoire.
Voilà. Ça pique un peu ça ?
Ça pique un peu, ça continue de piquer beaucoup même.
Ouais.
Je suis impliqué dans le film et je suis impliqué dans l'histoire d'Act Up et je vois la différence. Je persiste à penser que le film est important, mais que l'histoire d'Act Up est plus importante. Act Up
Absolument.
Est plus important que n'importe quel film qui soit. Il faut aller voir le film, mais pour autant. Donc là, il y a eu une petite amertume, ça c'est sûr. Après, il y a le jour où on a eu le Grand Prix à Cannes. Et j'ai reçu ce jour-là, le lendemain, un message de Hugues Charbonneau, le producteur qui est un ancien militant d'Act Up, lui aussi, et qui m'a envoyé un message très beau qui disait... On aura eu la maîtrise de notre histoire jusqu'au bout. On n'aura pas laissé les autres parler pour nous, et c'était l'objet même d'Act Up, ne laisser personne parler pour nous. C'est là que commençait pour nous la politique. Et ben, en un sens, on a continué de le faire avec ce film. On aura eu le dernier mot.
Vous parlez beaucoup au passé ?
Parce que je suis plus tout à fait militant. Vous savez, 13-14 ans de militantisme dans la lutte contre le sida, il faut passer à autre chose à un moment. Mais je parle au passé sans doute parce qu'en effet, je viens d'une époque où on mourait énormément du sida, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois que il y a une urgence en matière de lutte contre le sida aujourd'hui, et j'en parlais tout à l'heure, qui est zéro contamination. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout aussi urgent, mais infiniment moins tragique. Et c'est sûr que je vis avec des fantômes. Donc c'est ma façon de vivre au présent avec un passé fantomatique qui est celui de mes amis et de mes amants morts.
Philippe Mangeot, merci.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.